soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumoudadi, Daniel Morin. Bonjour.
Bonjour.
Bah oui, bah, tu veux pas dire bonjour ?
Si, si, bonjour.
Tellement t'es heureuse.
Oui.
C'est la bande originale, semaine de vacances, sélection des meilleures émissions, des meilleurs moments de ces émissions. Ce matin, un défenseur du goût, de l'action citoyenne également, et essentiellement du bon. C'est d'ailleurs le titre de son magazine Bon. Il s'agit du chef Thierry Marx. Un petit côté zen. Un petit
mais
côté,
en tout cas, la vraie action citoyenne, c'était de ne pas venir, monsieur.
Mais non,
ah, si,
tellement
verrez.
Pas sympa. Thierry Marx, jusqu'à midi et demi sur Inter. Thierry Marx est notre invité pour nous présenter son magazine Bon, pour parler cuisine évidemment, bien-être, santé, parce que tout ça va, intégration aussi, acceptation de la différence dans ces écoles de cuisine. C'est un homme qui touche à tout et chaque fois en essayant de bien faire pour l'autre. C'est ça qui est passionnant avec lui. On le reçoit dans quelques instants. Nous parlons donc cuisine et le blind test.
Morgane, bon attendeur.
Salut.
Double bon en plus.
Ça vient d'où ce truc-là, à bon entendeur, Sabine ?
C'est une expression populaire.
J'entends, mais c'était quoi, dans un roman, dans une fable, dans un...
Aucune idée.
C'est une famille qui s'appelait Entendeur. Pour voir si c'était
ça.
On disait à bon entendeur, salut, celui qui se reconnaît.
Sors-le ton livre des origines des expressions françaises vues par le démon.
Je vais aller les chercher.
Qui chante ça ?
Tanguy,
oui.
C'est Bon Jovi,
oui,
ça.
Oui, oui, c'est bon.
Living on a prayer.
Il y avait même une gueule, c'est Bon Jovi.
C'est génial, qui trouve.
C'est génial. Bon Jovi, c'est une réalité que j'ai pas entendu ça.
Moi, j'ai pas de ça tout le temps.
Là, c'est Bon Jovi.
Oui, là, c'est le Bon Jovi. D'accord. Écoutez, allez trouver des trucs avec Bon Jovi.
Non, mais bien joué.
Bah, alors...
Tanguy, oui. La compagnie créole.
Oui,
Joyeux Noël.
Waouh.
Non, Morgane, c'est pas la gueule.
Eh.
Il est où le bon?
Bon, mais c'est dégueulasse.
C'est bon pour le moral.
Bah oui, moi j'attendais ça.
C'est Bon Baiser, écoutez, je fais ce que je veux. Ce que je peux surtout.
Oh, c'est trop madame pour moi ça.
Joule.
Non.
Mais c'est pas Joule.
Morgane, c'est Katy Perry.
Joli.
Bon appétit, bébé. C'est le titre.
Je parle pas les
gars.
Exactement, le titre, c'est Bon Appétit.
C'est vrai ?
Mais tellement.
Non.
Bon appétit, bébé.
Oh.
Je suis passée à côté et finalement, c'est pas si grave. Bon appétit. C'est pas sa meilleure.
Ouais, c'est efficace quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est quand même pas mal.
On sait pas trop comment danser, quand même. C'est quand même pas bien.
Qui chante ?
Tanguy ?
Oui.
Ben, un chant fort.
Mais
bon,
oui.
Baiser,
oui.
Secret, d'un baiser codé. Secret.
J'en ai un.
Bon baiser.
En tête, ça, bon, c'est toi.
Discret.
C'est-à-dire que toi, en fait, tu fonctionnes à l'envers.
Moi, j'anticipe. Non, mais quand je les reconnais pas, j'anticipe.
Tu restes bloqué sur un.
Mais non, pas du tout. Non. Je tente ma chance. Je joue, quoi.
Oui, mais il se trouve que tu l'as pas.
Mais là, non. Mais j'aurais pas reconnu quand même. Hein.
Qui chante ça ?
Tom, ça sent le sardou, non ?
Non.
Ça fait très Noël. Hein.
Exactement. Les bons moments, Charles Aznavour.
Bien sûr, le bonheur est...
Je m'excuse. Non. Je me retiens.
Pour résumer, Tanguy trouve Bon Jovi, Morgane, Katy Perry et Daniel Aznavour. Ok ?
Voilà.
On a fait le tour ?
Ça résume nos personnalités.
Tout.
Il a aussi trouvé la compagnie créole, Tanguy.
Tout se joue. Tout se joue maintenant. Pour l'instant, c'est Tanguy qui est en tête.
Morgane, oui, Tanguy, c'est.
Vas-y,
c'est
si bon.
Dans
la cuisine.
C'est Daniel qui l'a. C'est Daniel. Avec ce bon.
Ça s'appelle comment ? Et tu mets pas Francky Vincent, c'est bon Francky, c'est quoi ?
Vas-y, Francky, c'est bon.
C'est le fruit de la passion.
Mais non, il n'y a pas bon, il n'y a pas du tout bon.
Si, c'est un titre. Bah vas-y, Francky, c'est bon.
C'est fruit de la passion.
C'est bon quand le titre c'est fruit de la passion et le mec c'est Francky Vincent. J'y peux rien, il n'y a rien dans bon.
Mange avec celui-là, de toute façon.
Victoire de Daniel et merci d'accueillir Monsieur Thierry Marx.
Avec la vie.
Soyez le bienvenu Thierry. D'abord la première question, c'est en effet comment allez-vous ? On s'intéresse à la santé dans votre revue, la nourriture est le premier remède. Allez-vous bien ?
Je vais très bien, merci. Merci. J'espère que vous tous ici...
Si vous saviez dans quel état on est, si vous saviez.
Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes plein de sagesse, vous êtes là, vous parlez doucement, vous demandez si tout le monde va bien également et tout, c'est très reposant.
Ça te prend exemple.
Ah ouais. Mais je le reconnais un peu en ça, il y a que moi qui suis généreux
non,
ici.
Non. Les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. Comment est née l'idée de cette revue? Je ne sais pas comment vous la baptisez, d'ailleurs, c'est un magazine,
oui, c'est une revue. Non, c'est né pendant le confinement avec Romain Jubert. On écrivait 2-3 trucs, on s'insurgeait sur pas mal de choses. Et puis, à un moment donné, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de monde dans les cuisines. Depuis une trentaine d'années maintenant, on voit de plus en plus de gens dans les cuisines qui parlent que de recettes, finalement.
Encore plus pendant le confinement, où là, sur les réseaux sociaux, ça a foisonné.
Et très peu de ce qu'il y a autour de la cuisine, c'est-à-dire toute l'alimentation, toute la géographie de la gastronomie, tout l'impact social et l'impact environnemental qu'on peut trouver dans le fait de faire la cuisine. Et on s'est dit, il faut écrire plus largement sur ce qui se passe sur cette planète gastronomique.
Mais alors, écrire dans quel but? Dans le but d'éduquer, dans le but de transmettre, d'informer?
Dans le but d'éduquer, oui, je pense. Enfin, au moins de partager nos connaissances et compétences à chacun. Et puis de se dire, et si on arrêtait d'être des consommateurs et qu'on devienne des mangeurs? C'est la grande phrase de...
Vous dites même que le pouvoir est au consommateur, oui.
Et bien sûr, mais...
Phrase de qui, pardon? Consommateur-mangeur, c'est...
Claude Fischler, c'est Claude Fischler qui, le sociologue, qui travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de consommer. Parce qu'à force de consommer, on a consumé cette planète. Et de se dire, et si je regardais ce que je mange, pourquoi je me restaure? Et qu'est-ce que manger veut dire? Et tout ça ramener, en fait, de s'éduquer, d'apprendre ce que c'est qu'un terroir, apprendre ce que c'est qu'un produit, et qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, son impact social et son impact environnemental. Et puis on s'est aperçu que très rapidement on était dans l'actualité où on allait encore nous laisser croire que l'alimentation était une variable d'ajustement, or que pas du tout, elle a un impact sur notre santé, elle a un impact sur notre vie, et qu'il fallait la regarder autrement aujourd'hui. Et cette théorie du low cost, cette espèce d'économie du renoncement qu'on connaît depuis 70 ans maintenant, eh bien, a oxydé notre société, pas seulement société française, de façon assez planétaire.
Ouais, c'est low cost et big profit, quoi. C'est-à-dire que c'est...
Le low cost, c'est qu'on vous laisse croire.
On essaye de vendre le moins cher possible pour pousser à la consommation, mais il y a des marges infernales qui sont réalisées par ceux qui proposent
le low cost. Et je pense que le côté cynique du low cost, c'est de dire « je fais ça pour les gens modestes ». Ça, c'est cynique. Et de dire que cette économie du renoncement profiterait aux plus modestes, or qu'elle profite aux plus riches.
Mais c'est intéressant de déconstruire cette idée, parce qu'on aurait tendance, en effet, à penser que si c'est pas très très cher, ça va être accessible au plus grand nombre. Et en effet, l'idée, sur le papier, en tout cas, elle est intéressante, de se dire qu'on puisse tous avoir accès à la même chose. Sauf que c'est pas vrai.
C'est pas vrai du tout, et on a fini par construire une économie, une alimentation à deux vitesses. Une qui serait bio pour les gens qui en ont les moyens, et puis une qui serait assez médiocre pour ceux qui ne l'auraient pas, en leur disant « ne vous plaignez pas, renoncez à la qualité, en échange de quoi je vous fais un prix intéressant ».
Sauf que c'est pas dit clairement, c'est-à-dire quand on parle de ces magasins low cost, non, parce qu'il y a encore des gens qui...
T'imagines, c'est vendeur.
Ouais, mais
c'est pas cher, mais c'est pas bon.
Mais oui, mais ça peut expliquer une partie de l'erreur, du fait qu'on s'enfonce dans cette erreur-là, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience que le produit qu'ils achètent, à bas prix, n'est pas bon pour leur santé, et n'est pas bon pour tout l'écosystème.
Moi, j'irai plus loin, c'est que celui qui vend à low cost fait plus de marge que celui qui vend le bon produit cher, et le paradoxe, c'est que tu gagnes plus d'argent à faire des crêpes pourries ou surgelées ou des mauvais croque-monsieur que d'être dans un étoilé. La marge n'est pas du tout la même.
Moi, ce que je regarde,
tu gagnes plus d'argent à faire des crêpes dans la rue qu'avoir un restaurant étoilé.
Ça, c'est économiquement parlant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le déclic des gens. Non, mais c'est pourquoi les gens vont acheter dans des endroits dits low cost. C'est ça qui est intéressant, c'est que s'ils avaient vraiment conscience, et si on leur disait véritablement que ce produit-là n'est pas équivalent à un produit qui vaut 50 centimes d'euros plus cher, peut-être que les choses se feraient autrement.
Tu réfléchis pas comme ça.
Moi, je crois que c'est ça qu'il faut déjouer.
Il aura un impact sur la santé. Et vous savez, c'est dans le monde de l'alimentation, vous avez deux variables d'ajustement qui sont le coût matière première et le coût du travail. Il faut arrêter avec ces variables sur l'alimentation. C'est mortifère.
Mais pardon, et pour en revenir au consommateur, le réflexe, c'est de se dire, est-ce que j'ai les moyens de payer ça ou les moyens de payer ça? Personne ne se pose la question en achetant un produit de est-ce que c'est bon ou pas pour ma santé au moment où j'achète.
Justement, c'est ça qu'il faut réintégrer.
Mais je l'entends, j'entends ce propos. Effectivement, aujourd'hui, il y a 8 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire.
Ouais.
Mais c'est parce qu'on a cru à cette théorie du low cost il y a 70 ans qu'aujourd'hui, notre société est auto-oxydée.
Entièrement d'accord. Et qu'on est allé vers aussi l'industrialisation de la nourriture plutôt que...
pas chez nous.
Donc voilà. La baguette c'est-à-dire à 27 centimes, ça vous rend fou, quoi?
Ça me rend fou, pas pour montrer du doigt des enseignes qui pratiqueraient ça, mais ça me rend fou parce que on laisse croire encore une fois que cette théorie du low cost profiterait aux plus modestes, et c'est dans ces plus modestes qu'il y a les plus fragiles en termes d'alimentation.
Ouais. Alexis ?
Après, je pense que la communication aussi a son rôle. On se souvient de Jean-Pierre Coff qui avait donc prêté son nom pour Leader Price, qui est une chaîne hard discount. Et puis on voit également des grands chefs mettre leur nom sur des produits. Alors des marques un peu plus haut de gamme, on va dire, que du low cost, mais quand même, qui viennent dans les supermarchés, et au final, ça peut laisser entendre que dans les supermarchés, on trouve des bons produits.
Mais on trouve des bons produits dans les supermarchés.
Oui, mais je veux dire, par voie de conséquence, il y a des gens qui peuvent se dire, bon, ben moi, j'achète un peu moins bien, mais c'est quand même dans le rayon où on voit Thierry Marx, où on voit
Robuchon,
etc.
Ça brouille le message. Alors là, je peux vous répondre là-dessus. Moi, j'ai jamais tiré à boulet rouge sur ce qu'on appelle la grande distribution. Mm-hmm. Bien au contraire, j'ai trouvé que la grande distribution qui était dans le hard discount dans les années 50 est passée au smart discount en ramenant du légume, en parlant de circuit court. Je trouve que l'histoire de la baguette est une mauvaise rechute. Vraiment une mauvaise rechute. Mais si on regarde bien ce qui avait été évoqué sur le Covid et le monde d'après, ben, y a pas de monde d'après. C'est-à-dire qu'on s'est dit, non, ça fonctionnait le truc du coût du low cost et du tout pas cher, on va revenir au tout pas cher. Et c'est ça qui est troublant, c'est de dire, profitons de ce Covid, finalement, de cette date historique, pour dire, non, remettons à plat l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est un produit de consommation comme les autres? C'est juste la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais que des chefs travaillent, et c'est mon cas, j'ai pas honte de le dire, de travailler des fois pour la grande distribution, quand la grande distribution, en se mettant autour d'une table, discute. Mais en laissant croire que en écrasant les marges de l'agriculture depuis 70 ans, on profite aux consommateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut plus dire.
On est tous d'accord.
On l'a peut-être fait au XXe siècle, mais on est dans le XXIe.
Thierry Marx, avec cette revue, avec votre école, les restaurants, on va essayer de survoler, je ne sais pas si on aura le temps d'ailleurs, de parler de tout ce que vous faites autour de la nourriture et autour de la santé. Avec vous, on est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde ici. Il y a Morgane Cadignan. Je suis désolé Thierry. Vous savez tout le respect que j'ai pour vous Thierry, et pourtant Morgane Cadignan ne vous aime pas.
Non mais Thierry Marx, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai pas envie de vous voir autour de cette table. Moi j'ai envie de vous croiser dans un endroit avec un fourneau pas loin, quoi. Non mais voir des grands cuisiniers pour parler d'un magazine, alors un livre ça se dévore, mais un magazine ça se mange pas. J'ai faim Thierry. Franchement chacun sa place, quoi. Quand on reçoit Tahar Benjelloun, il nous fait pas une omelette, merde. Thierry Marx super, mais je veux boire ses sauces, moi, pas ses paroles. On peut pas trouver une petite poêle et un briquet qui nous improvise un petit truc là, vite fait? Thierry, j'ai un sachet de thé, une pastille pour la gorge. Après, vous faites comme vous voulez, je suis pas là pour mettre les gens en compétition, mais la dernière fois avec ça, Michala qui nous a fait un dessert glacé de réveillon. Vraiment, c'est comme vous voulez. Après, je vais me calmer parce que Thierry, vous êtes quand même ceinture noire de judo, et c'est pratique. Dès qu'il y a quelqu'un qui remet en question l'assaisonnement d'une papillote, bam, un petit yokodori pour remettre tout le monde d'accord. Après, vous regardez la personne à terre et vous lui dites, et ça, c'était assez salé, connard. Franchement, non, mais physiquement, vous êtes à une nuance de bronzage d'être Dwayne Johnson The Rock. Donc, moi, franchement, le film où vous êtes en jet ski autour du globe pour traquer un commentateur anonyme qui vous a démonté sur TripAdvisor, moi je signe pour la trilogie de la toque de la vengeance. Bon, c'est un magazine. Alors le magazine s'appelle Bon, j'ai pas dit deux fois Bon. Bon, c'est un autre magazine. Bon, j'ai mal à la tête. Ah, mais bon, votre magazine à vous, il parle de ce qui rassemble autour d'une table. Bah là, cette table ici, dans ce studio, ce qui nous rassemble, c'est l'avarice et le besoin d'exister, faut être honnête. Mais c'est vrai que pour le reste des gens, en général, il y a des trucs au milieu de la table. Une planche de Ouija, quand t'as oublié de demander l'IBAN de l'assurance vie à ton grand-père, ou plus souvent de la nourriture, en sauce, crue, cuite, en papillote, légère ou grasse, tout ce qui en France fait qu'on va en parler en la mangeant. Personne s'est rendu compte, mais j'ai fait un petit départ de phrase à la Laurent Mariotte, là. En sauce, crue, cuite, en papillote, la Saint-Jacques n'en finit pas de nous étonner. Tentez de gagner 12 millions de roubles en répondant à la question suivante. Qu'est-ce qui n'en finit pas de nous étonner? La Saint-Jacques ou Valérie Pécresse? Non mais, c'est manger et parler de ce qu'on mange, il n'y a rien de plus français. Il n'y a rien de plus français que de regarder quelqu'un apporter une casserole à table et dire, alors, qu'est-ce que tu nous as fait, raconte un peu, et de voir l'autre rester debout et se lancer dans ni plus ni moins qu'une thèse qui commence par « Alors, j'ai revisité », pour dire qu'il a mis une sauce agrume sur une endive. T'as pas revisité, Jean-Jacques, t'as juste oublié de racheter du balsamique. Mais bon, c'est ça qui est beau. En cuisine, ça nous rassemble, ça aide les plus taiseux d'entre nous à nous dire qu'ils nous aiment en essayant d'atteindre notre cœur en passant par nos estomacs. Ça transforme des chefs de famille qui savent pas cuire du riz en grands chefs parce qu'ils ont collé leur nom derrière une façon de rater une omelette. Ah, les œufs brouillés à la Jean-Yves, ce petit goût de coquille inimitable. Mais l'important, c'est que Jean-Yves, quand il essaie de vous empoisonner, en fait, il veut surtout vous faire plaisir et vous dire qu'il vous aime. En revanche, Jean-Yves, achète bon le magazine, tu vas voir, il y a plein de trucs dedans, sauf des coquilles.
Merci. Bon, ce magazine, on va partir de l'essentiel, le titre, parce que la définition du bon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour ceux qui fabriquent, préparent ou cultivent. Mais la définition du bon, ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour moi, ce que moi je trouve bon ne l'est pas forcément pour Leïla et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est quand même le point de départ de toutes les discussions autour d'une table, le bon.
Oui, alors le bon, il y a beaucoup de diversité dans le bon, et ça je le reconnais, mais dans bon, c'est mesurer la qualité du produit dans son impact social et son impact environnemental.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il y a des produits que je ne peux pas aimer, par exemple, je sais pas, l'endive, peut-être, encore bien que j'aime les endives, et de me dire, mais cette endive, elle est cultivée correctement sur un sol de qualité, et elle est payée à son juste prix à un producteur, en échange de quoi il s'assure que cette endive, d'une façon analytique, c'est-à-dire quand on l'analyse, elle est bonne pour le goût et la santé.
J'ai le sentiment que votre combat est noble, mais il est perdu d'avance. Comment voulez-vous expliquer à des faiseurs d'argent sur la nourriture qu'il va falloir qu'ils en gagnent moins pour rééquilibrer la justesse du propos et l'équilibre entre la fabrication ou la culture et la consommation?
Personnellement, je fais une proposition de passer du consommateur au mangeur. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi je mange? Et puis, se dire que cette alimentation, dans son, le fait de consommer, de mieux manger, aura moins d'impact sur la santé de nos concitoyens. Et quant à la croissance.
Oui, mais vous n'allez pas faire la police du bon goût ou la police
du
bon.
Non, mais pas du tout. C'est même pas la question. C'est de dire, est-ce que c'est toujours aussi intéressant de faire du profit, d'énormes marges, ou de retourner si on veut. Parce qu'on parle beaucoup d'environnement.
Mais vous n'êtes pas naïf. Celui qui fait du profit, il va vous dire évidemment que je suis content de faire du profit. Il va pas vous dire, je vais en faire moins pour que ça soit bon.
J'ai pas vu, on peut être très très riche aux îles Caïmans et plus rien avoir autour de cette planète. Je veux dire, et que les îles Caïmans, il se passera plus rien. Donc à un moment donné, je pense, j'évoque ça simplement, de dire est-ce qu'il faut pas faire de la croissance en conscience. Je suis pas un apôtre de la décroissance économique, bien au contraire, je crois à la croissance économique, mais une croissance en conscience, une croissance qui a un impact social et un impact environnemental. Je parle juste de l'alimentation, je suis pas en train de parler d'autre chose.
Donc c'est aux consommateurs et donc aux électeurs et à ceux qui ont le pouvoir du porte-monnaie, quelle que soit la somme qu'il y ait dans ce porte-monnaie, décider.
Bien sûr. Est-ce que c'est... J'étais dans ma voiture l'autre jour, j'entends une pub, pour... je prends ma voiture pour faire 600 km, ça m'arrive. J'entends une pub, 3 avocats, 1,50€.
Faut y aller.
Est-ce que ça a du sens?
Intéressant.
Sur l'impact social, pas vraiment, ils sont pas mûrs, ils arrivent. Et sur l'impact environnemental, c'est catastrophique. Cette surconsommation alimentaire... consommer la planète. Ça, c'est factuel.
Est-ce que vous avez déjà entendu une question posée par quelqu'un qui est dans votre magazine? Parce que Tom Villa, tu es dans le magazine.
Oui, je l'ai découvert ce matin. Donc,
tu savais pas que c'était un magazine?
Non, pas dans ce numéro. En vrai, j'ai fait l'interview il y a 2 ans et demi.
Avant le confinement.
Page 54.
Exactement, c'est mon chiffre. La petite question aussi, est-ce que l'industrie a pas fait trop de produits transformés? Est-ce qu'on vend pas trop de petits hachis parmentiers, de choses en barquette, et que finalement, j'ai
déjà cuit, déjà consommé.
Là, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que l'industrialisation de la cuisine, c'est les années 70. On va copier le modèle américain. On va copier le modèle américain sur la grande distribution. Ça, c'est l'après-guerre. Et puis après, on va copier ce modèle d'industrialisation. Pourquoi ? Pour faire du revenu. C'est-à-dire qu'un petit restaurant qui fonctionne finalement a un impact social extrêmement réduit. Et s'ils veulent gagner de l'argent, il faut qu'ils multiplient les choses. Donc on a industrialisé ce qu'on pouvait industrialiser. Alors, quand vous regardez le modèle américain, si c'est pas industrialisable, bah, vous faites pas. Le burger a été industrialisable, on l'a industrialisé énormément. Le donut, enfin ce que vous voulez, ça a été industrialisé. Nous, on s'est un peu copié là-dessus, mais on a quand même préservé les cuisines d'auteur, mais on a été quand même très impacté, effectivement, par l'industrialisation. Encore une fois, la théorie du low cost, mieux manger, moins cuisiner, et puis être dépendant, finalement, de gens qui produisait pour
et
nous.
Et pardon, et le temps aussi. J'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire les courses, j'ai pas le temps de préparer. J'appelle, je me fais livrer, c'est déjà cuit, j'ai plus qu'à faire mes micro-ondes d'une minute et basta.
Tout à fait, j'entends.
Non, mais je veux dire, c'est un.
Mais
c'est,
quand
c'est
je regarde cercle. Mon smartphone, je me dis, voilà, j'ai vachement passé de temps sur mon smartphone.
J'avais le temps de cuisiner.
En gros, moi, je vous fais un minute, enfin, je suis professionnel, donc c'est, ça ressemble à rien à ce que je vais dire, mais quand je travaille, par exemple, quand je travaillais au Resto du Cœur, on apprenait à manger avec pas grand-chose. Et une cafetière, et en 30 minutes, on avait fait à manger pour 4 personnes. Vous voyez que c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut reprendre conscience de l'individu que l'on est, et alors, pourquoi on se restaure.
C'est un faux problème, sauf que, vous l'avez dit, vous êtes un professionnel, vous avez le savoir-faire, et justement, c'est par le savoir aussi que vous pensez que cela peut passer, c'est-à-dire dans l'éducation, en donnant des cours dans les écoles, des cours de cuisine.
Alors, pour moi, c'est l'essentiel, de, dès le cours préparatoire, de remettre au cœur de la formation le cours de cuisine et l'initiation au sport.
Ce qui existait, il y a
quelques multisports. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on peut parler de d'alimentation, mais si on ne parle pas de sédentarité, c'est un vrai problème. Donc l'initiation à la cuisine. Dans un cours de cuisine, je vous fais ça court, mais il y a un cours d'histoire, il y a un cours de géographie, il y a un cours d'arithmétique, il y a un cours de français et il y a un cours d'éducation civique. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi l'autre ne mange pas pareil.
Vous voulez dire que ces cinq valeurs rentrent dans un cours de cuisine?
Exactement.
Ce que vous voulez dire, d'accord.
Exactement. Assis autour d'une table, tiens, tu ne manges pas tel ou tel produit, tiens, tu ne manges pas ces jours-ci, pourquoi? Ben parce que c'est... Et j'explique les choses. Vous voyez que quand vous commencez ça à l'âge de 6 ans, eh bien ça va... C'est un peu la stratégie du sachet de thé. Vous savez, ça diffuse, et puis quand ça devient amer, il faut retirer. Un cours de cuisine d'une heure,
c'est ce que vous écrivez dans la revue, en effet. Mais pour en revenir au problème, pour vous, le problème fondamental, c'est l'éducation, c'est de comprendre... Pourquoi? D'abord, on aura toujours besoin de manger, ça c'est ancestral, c'est un réflexe, et on peut pas faire autrement, sinon on meurt. Mais le mieux manger passe par savoir ce que l'on consomme et d'où ça vient. Ça passerait pas aussi par un peu moins manger? On n'a pas le sentiment finalement qu'on nous pousse là aussi à grignoter, à manger, et que finalement on finit par se dilater, par avoir faim, parce qu'on a un peu plus mangé la veille, et c'est un truc sans fin qui arrive. Et vous le dites, le paradoxe, c'est qu'on en arrive à une surpopulation et à une population aussi d'obèses. Alors on est dans les deux extrêmes, il y a des gens qui meurent de faim sur cette planète et d'autres qui sont en surpoids.
Mais exactement ça, c'est manger mieux, manger moins. C'est-à-dire que moins consommer aussi la planète, mais c'est dans, effectivement, manger mieux et manger moins, et comprendre. Il y a plein d'éléments qui nous prouvent qu'on a raison là-dessus. Et encore une fois, c'est, il faut sortir du mécanisme de la surconsommation. Et vous savez, ça me fait penser au film de Ruffio. Quand vous voyez de la théorie du low cost dans l'alimentation, c'est le dernier petit sou. Il voulait encore le dernier petit sou. Ben c'est ça, les petites baguettes pas chères, les petits produits low cost, ben c'est d'aller gratter encore plus de petits sous chez celui qui en a pas beaucoup.
C'est-à-dire qu'il faudra arrêter la publicité, il faudra arrêter les lobbies aussi, parce que l'alimentation c'est quand même des lobbies, on a tous vu un certain nombre de documentaires, que ce soit sur des plateformes ou pas.
Le sucre aussi,
les produits laitiers, il y a plein de révélations par rapport à la santé, où on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça, mais pourtant, on parle d'éducation depuis le plus jeune âge, on a intégré l'idée qu'il faut boire du lait, qu'il faut
pas forcément,
prendre un petit déjeuner.
Mais la pré-guerre, c'était ça.
Enfant, c'était les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et voilà, c'est ça.
Or, c'est pas tout à fait juste. Mais là où vous avez raison, c'est de dire on vient avoir un traceur très fort qui est la Covid. C'est vraiment historique dans notre parcours de vie. On se dit, et si on s'asseyait, et plutôt que de chercher des coupables, nous cherchions des solutions. L'idée de ce magazine, il est là. C'est pas de dire t'as tort, tu as raison. C'est pas de dire la grande distribution, pas bien, l'industrie. L'industrie, d'ailleurs, l'industrie est peut-être l'industrie et le capitalisme en général est peut-être le plus darwinisme qu'on connaît. Il s'adapte. Il faut devenir vert, on devient vert, et c'est nous qui posons les conditions du green label. Enfin, ça devient complètement
fou. Il faut des voitures électriques qui les fabriquent.
Exactement. Même si on sait plus quoi faire des batteries. Enfin, je veux dire, tout devient complètement fou. Mmh. C'est de l'adaptabilité économique. Mais si on parle d'alimentation, ça a tellement un impact fort sur l'environnement et sur la santé de nos concitoyens. D'ailleurs, les trois rapports qui ont été faits, un par l'université de Séoul, l'autre par l'université de Tokyo et le dernier par l'INSERM, Pierre Veil, sur l'alimentation et les conséquences sur la Covid.
Pierre Veil, qui est dans votre
Pierre est formidable, c'est bleu-blanc-cœur. C'est vraiment une meilleure alimentation pour tout le monde, pas une alimentation à deux vitesses.
Daniel Morin.
Alors c'est très sensé ce que vous dites, mais c'est vraiment, vraiment dans un monde idéal, parce que vu tout ce qui nous entoure, Lila le disait, on est bombardé par la publicité. Mmh. Aussi vous disiez, faut prendre le temps de plus cuisiner. À ce moment-là, on remet en question toutes les plateformes qui nous servent des séries, qui enchaînent les épisodes sans qu'on demande rien, et du coup, on n'a plus le temps d'aller en cuisine. Enfin, on aurait le temps, mais là, on est scotché à nos canapés.
Il y a un bouton pause. Hein,
il y a un bouton pause, mais voilà, on alimente, on suralimente, et c'est même plus de l'alimentation, c'est de la perfusion qu'on nous met.
Pour aller dans ce sens aussi, il faut aussi qu'on pense à ceux qui produisent, qui cultivent, qui travaillent et dont on a besoin, d'ailleurs de plus en plus, et d'arrêter le côté agriculture intensif et intensifier plutôt les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'agriculteurs pour que l'agriculture soit moins intensive.
Oui, plus d'agriculteurs. D'abord, il va y avoir une vraie transition avec ceux qui vont partir à la retraite et ceux qui doivent revenir. Et puis,
on en a besoin, mais il n'est pas sûr là que les jeunes aient envie de se mettre.
Il y a de la demande, bizarrement. Il faut les accompagner. Et puis, dire, il faut arrêter d'écraser leurs marges en disant produisez moins, produisez mieux. C'est tout le travail de ce qu'a fait Bleu-Blanc-Cœur. Bleu-Blanc-Cœur, ça doit être 6 000 éleveurs, 4 000 producteurs. C'est des gens qui ont travaillé sur les sols, c'est des gens qui ont travaillé sur l'alimentation du bétail, le bien-être animal, pour avoir une santé globale de ce que nous mangeons. Ils l'ont fait, mais c'est 20 ans de travail.
On continue de parler avec Thierry jusqu'à midi et demi de la nourriture, de ce qui est bon finalement pour le corps et pour l'esprit. Voici Marina.
Ah oui, voilà.
Bonjour les amis, j'ai récemment pris la décision d'arrêter à chaque fois que j'ouvre la bouche de dire pardon, excusez-moi, je suis désolée, merci mille fois. Et étant à la fois suisse et une femme, j'ai donc gagné 4 nouvelles heures par semaine, donc je ne sais que faire. Si on couple ça au fait que la nuit tombe de plus en plus vite et que novembre, le mois de toutes les déprimes, sera là dans une semaine, j'ai pensé qu'il était pertinent aujourd'hui de vous parler d'un super passe-temps, zéro déchet et démocratique, la masturbation. La masturbation, mais déjà qu'est-ce que c'est? Parce que j'en vois autour de la table, ils sont plus sûrs, mais la masturbation, c'est quoi déjà? C'est le truc des start-upers? Pas du tout, c'est eux, c'est la disruption, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est la même famille, mais c'est moins. Non, la masturbation, alors selon Wikipédia, c'est, je cite, Unter Masturbation oder Onanie oder Selbstbefriedigung wird eine überwiegend manuelle Stimulation der Organe gleichzeitig Organe verständlich in der Regel zum Orgasmus. Voilà. Donc là, je crois qu'on est tous d'accord. Voilà. Alors attention, je parle souvent de sexualité. J'ai pas précisé quelle Wikipédia.
Mais oui, c'est vrai.
Je parle souvent de sexualité à cette antenne. C'est pas pour essayer de me créer une espèce de personnalité. Hein. Il y a des gens comme ça, tu les connais à peine, tu leur as rien demandé dès qu'ils ont un demi gin tonic dans le cornet. Ils sont là. Bon, c'est vrai qu'après moi, je suis hyper branchée cul, quoi. Je suis sagittaire, hein, y a pas de secret. Je suis hyper branchée cul. C'est comme ça, hyper branchée cul. T'as envie de dire, écoute, tant qu'on n'a pas de relation intime ensemble, cette information est peu utile. Enfin, c'est pas méritoire en soi, tu vois. C'est pas, si tu le dis tout le temps, au bout de 10 ans, t'as le Nobel du cul. Enfin, tu vois, c'est comme te prendre en photo à côté d'une Lamborghini, tu vois. Ça parle, mais tant que j'ai pas fait un tour dedans, enfin, on va arrêter de s'agiter, quoi. Non. Si je parle autant de sexualité, c'est parce que c'est évidemment le terrain sur lequel se jouent beaucoup des questions d'égalité entre les genres. Parce que non contente d'être moins bien payée et moins représentée dans les instances dirigeantes, les femmes jouissent moins. Mmh. Voilà. Alors je dis les femmes, c'est évidemment les femmes cis hétérosexuelles qui ont nettement moins d'orgasmes pendant les rapports que toutes les autres groupes, femmes cis hétérosexuelles, groupe dont je fais partie, et auxquelles toutes les autres femmes disent mais vous êtes sûres? Parce que vous êtes les bienvenues. Hein. Enfin, je veux dire, nous on a vraiment bien réfléchi à la question et votre truc c'est vraiment pas optimal. Et nous on est là 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 là. Or, pour une fois, je vais pas charger les hommes. On jouit moins, notamment parce qu'on se connaît moins. Voilà, c'est pas la faute des gars. Les statistiques le prouvent, on connaît moins bien notre anatomie et on se tripote moins que les mecs. Voilà. Donc forcément, si on se connaît pas, on peut pas arriver vers des gens qui sont pas équipés pareil et être là, bon alors, tu sais pas exactement ce que je veux et je ne sais pas exactement ce que je veux, mais en avant la musique, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est comme si, vous savez, ces restos dans le noir où il n'y a pas de lumière là où tu manges. Bah, c'est comme si dans ces restos, en cuisine aussi, ils étaient dans le noir, tu vois. T'entendrais des gens qui crient, qui se brûlent, ce serait pas bon, ce serait cher pour rien, à la fin personne serait vraiment content. En somme, une relation hétérosexuelle non déconstruite. C'est pourquoi je crois qu'à moins que vous soyez asexuel, toutes les femmes devraient apprendre à jouir. Et pas uniquement par égoïsme, en vrai c'est hyper altruiste. Parce que le sexe, quand c'est pas réciproque, c'est pas drôle pour nous, mais c'est pas génial pour eux non plus, tu vois. Supposément, un éternuement, c'est un sixième d'orgasme.
Ah bon ?
Ça veut dire que si un partenaire jouit pendant un rapport et l'autre non, c'est comme si un mec faisait... C'était bien pour toi aussi. Et puis vraiment, si c'est pour pas jouer, il y a plein d'autres trucs plus marrants à faire, quoi. Je sais pas, de la varap, des gyoza, de la céramique, du surf. Et pourtant, oui, aussi insatisfaisant que ce soit pour certaines, le monde tourne autour du sexe et du fait de réussir à entrer en relation avec d'autres corps. Or, si un grand nombre de femmes cis-hétéros ne jouissent pas, forcément, il y a incompréhension dans les termes de base de la drague, tu vois. Moi, ça m'a toujours frappé à quel point il y a une vibe un peu pédophile menteur chez les mecs hétéros de base quand ils draguent. Tu vois, on nous prend pour des buses. Ça nous flatte sur des trucs absurdes, ça ment comme c'est pas possible, ça fait des projets qui voient jamais le jour. Bah, pas chez moi, on pourrait regarder un film. Il n'y a jamais de film. Et moi, ça me va super qu'il n'y ait pas de film, parce qu'en l'occurrence, je veux la même chose que la personne en face. Mais alors, pourquoi on ne peut pas se parler comme des adultes qui se disent les choses ? Tu me plais, j'ai envie de toi, ça te dit. C'est un rapport franc, égalitaire, tu vois, où personne est traité comme un gosse et où on n'a pas honte d'avoir envie de trucs chouettes. C'est vachement plus érotique. Je pourrais t'écouter parler des heures tellement différentes pendant que dans ta tête, il y a un babouin lubrique qui tape sur des casseroles en hurlant baiser, baiser, baiser. Mais forcément, le côté drague qui parle d'un truc alors qu'on en veut un autre, c'est légitime à partir du moment où t'évolues dans un monde où il y a plein de nanas pour lesquelles le sexe c'est pas chouette. Et qu'en plus on vit encore dans une culture où accumuler les partenaires ça fait théoriquement baisser ta cote. Les femmes c'est encore un peu une espèce de jouet de collection. Tiens, il faut les laisser tout le plastique, il faut pas les étouffer, tu vois. Dans ce contexte, forcément, la perspective de voir les affranchis c'est plus sympa que d'avoir quelqu'un qui te transpire dessus pendant 22 minutes. Homme qui, s'il ne devient pas le père des deux enfants, a fait baisser le cours de ton action sur le marché de la monogamie. Donc, mesdames, cet hiver, touchez-vous, explorez-vous, matez-vous, regardez des tutos, demandez des conseils, ambiancez-vous. Après, pas de pression, hein, pas d'obligation de rendement, de performance, mais il faut dire ce qui est. Plus vous apprendrez à prendre votre pied, plus vous aurez envie de ken, moins on sera tous obligés de se mentir, plus on sera heureux. Et ça, au seuil de l'hiver, c'est quand même une perspective plus sympa qu'une dépression saisonnière.
La bande originale de votre matinée continue sur Inter, juste après Gangster Moderne de MC Solar.
Gangster Moderne pour une émission d'escroc ?
Ça se tient.
Il est là, large, barge, près de la berge, narge, a quitté la cage pour le marivaudage, le marécage, et derrière lui, loin, son acte le plus sage est d'avoir tiré sur le parrain. Dans son quartier, le général Noriega est aussi respecté que Jean Bedel, Bokassa, Lino Brown, Escobar, les blocs, notes de dollars sont aussi vénérés que Jésus-Christ le soir. En pleine crise, à deux vols au casino, secrètement son rêve est ne plus gratter des bancos, son petit lard saint et signe de malchance. Les balances sont des caméras de surveillance. Fini les costards à la Marlon Brando. La démarche calque est sur De Niro de l'accord studio. Heureusement que la santé fleurit à Fresnes. Qui rêve de politique pour être un gangster moderne. Gangster moderne, c'est juste ajouter quelques zéros. Gangster moderne. Jadis c'était Alfonso Capone et Nitti. Aujourd'hui les affranchis roulent en berline à Paris. Oui. Laisse dans ce business, Elliot Ness et de mèche. Satan dirige la messe, donc personne ne se confesse. Allez. Il a rêvé de fumer de la taille en toute impunité. Mais c'est que seuls les députés auront l'immunité. Que les plus grands gangsters font du marketing. Quand ils dansent des jeans en CDI dans un pressing. Ils rêvent action, gilet pare-balles, paranoïa. Sans même le 13e mois veut s'installer dans la familia pour reposer son père, retraité et plein de peine. Il veut faire de la politique pour être un gangster moderne. Les gangsters modernes sont les gens d'aujourd'hui. Ils font les lois, ils font les lois. Ils font gangster moderne, c'est l'idéal dans les HLM. Le nouveau rêve, c'est un nouvel Éden. Un jour, il rencontre la femme de sa vie. Lui parle de Scarface et du cartel de Cali. Ce monde est tien, bien, c'est toi qui le fais. Mais de l'abstrait au concret, je veux pas être ta Florence Ray. Elle lui propose une balade loin des pluies acides. Cheval en Camargue, bras et repos placide. Un gosse
passe. Sur la bouche, il a du blérina. Ado sort son flingue et tire sur le parrain de la mafia. Le poster vol lui tombe sur le sol. L'élu de haut vol est emporté par éole. J'ai l'esprit critique et lit la presse quotidienne. Constate que les politiques sont pleines de gangsters modernes. Zéro gangster moderne.
Est-ce que la réalité dépasse la fiction? C'est la fiction.
Gangster moderne.
Parce que parfois les sujets ajoutent la prison.
Zéro gangster moderne.
C'était Gangster Moderne, MC Solar, dans la bande originale de votre matinée sur Inter. C'est vrai qu'on a le sentiment que on sait plus quoi faire, on sait plus où aller, et que d'un coup on est coupable. Et là, on est bien placé, puisque on est à France Inter, on est des bobos nantis, on a aucun problème pour remplir notre panier lorsque l'on fait nos courses. Donc, j'entends déjà les râleurs et les haters dire ouais, c'est facile de tenir ce discours-là, mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, j'achète un avocat, il y a une barquette en plastique, je suis coupable. L'avocat, d'où il vient, j'en sais rien.
Toutes les informations sont pas toujours présentes, d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Hein, en fait, faut mener l'enquête quand tu parles du nitro. Score, c'est ce qui est intéressant, c'est les lettres. On se dit, bon, ça m'évite de passer 15 plombes à lire une étiquette qui n'est pas forcément facile à comprendre. C'est pas simple tout ça.
Alors, si je peux me permettre sur les.
Non, mais j'ai pas fini. Moi, je vais rajouter. Non, mais je repense au port aussi, et vous en parlez dans votre magazine aussi. La qualité de cet animal, et vous parlez aussi du bien-être animal et de la souffrance animale, et de cet animal qui rapporte, qui est bon, qui est goûteux, et donc bah, on l'engraisse, et puis on va lui rajouter des antibiotiques, on va lui rajouter du soja sous OGM, et puis alors, pour planter le soja, on va déforester aussi les trois quarts de la planète, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit qu'il y a une spirale à laquelle on ne peut rien. Vous, vous dites, bah, chacun est responsable avec sa manière de consommer, mais on n'est même plus au niveau du colibri, là. On est au niveau de l'acarien qui essaye de modifier
l'ADN d'un mammouth. Ça me touche d'entendre ça, parce que je porte jamais de jugement sur la consommation des personnes, mais j'ai fait partie. Moi, je suis pas né dans un coffre-fort, je viens de des quartiers, et dans le quartier, la première chose qu'on avait arrivé, c'est la grande distribution, parce qu'il n'y avait rien d'autre, et on était très contents d'avoir la grande distribution. Et finalement, il y a encore à peine 10 ans, j'étais un très très bon consommateur de l'enseigne que vous avez nommée, et il y a des 10 du mois où je me demandais si on allait me rendre ma carte bancaire.
C'est ça.
Donc, j'ai pas de souci avec ça.
Et vous avez raison de pas oublier ça aussi, parce qu'on peut pas non plus accuser ceux qui font ça ou ceux qui consomment comme ça d'être responsables de tous les maux de la planète. Sûr. Parce Surtout que leur réflexe, c'est pas de dire qu'est-ce qui est bon pour la planète ou pour la santé. C'est qu'est-ce qui me reste pour bouffer.
La seule chose que j'évoque, c'est d'abord d'essayer de protéger leur santé. C'est une première chose. Mais encore une fois, il n'est pas question de chercher des coupables. Il est plutôt question de chercher des solutions. Et la solution, pour moi, elle est dans l'éducation et l'éducation des petits. Et on aura un résultat dans 20 ans. C'est pas grave. Mais on aura fait des mangeurs.
Ouais. C'est ça. Et puis, alors, ceux aussi qui ont les moyens de se dire je vais à tout moment dans l'année avoir mes tomates, mes mangues, mes ananas,
mais ce que je veux dire, c'est que même quand t'essayes de faire bien et d'aller dans des établissements qui te proposent des trucs un petit peu en circuit court, il y a toujours des trucs à la carte.
Oui, mais quand on croit trouver une solution à l'un des maux de notre planète, que ce soit tout à l'heure, on blaguait sur les voitures diesel, les voitures électriques, c'est vrai que d'un coup, on pense, et moi le premier, sauver la planète en roulant dans une voiture électrique, puis d'un coup t'apprends qu'il y a des mines entières à ciel ouvert de lithium, qu'on saura pas quoi faire des batteries, qu'on est en train de pourrir la planète pour pouvoir faire des batteries de voitures électriques. On se dit, bon, est-ce que c'est un moindre mal l'énergie fossile versus les batteries. Et puis pareil, on me dit, le lait de vache, faut arrêter de consommer le lait de vache parce
parce que c'est fait pour prendre des centaines de kilos quand on est un veau pour devenir un bœuf. Donc c'est pas bon pour le corps humain et on est la seule espèce animale à continuer de boire du lait alors qu'on est sevré. Donc ah super, il y a quoi? Bah, lait d'amande. Ah, j'ai goûté le lait d'amande. C'est bon le lait d'amande. Ah,
si on arrête de boire du lait, tu mets en péril la vie.
Et après tu découvres quoi? Que pour le lait d'amande, il faut des milliers de litres d'eau. Qui est l'or bleu, donc, et que ça abîme encore une fois aussi la planète de prendre le lait d'amande. Et tu dis, mais alors, ok.
On fait quoi?
Je fais quoi?
Ouais, allez, un bon verre d'eau, mais et c'est parti.
On va repasser dans le passé, un petit véhicule là qui nous permet ça. On va repasser dans le passé et on va être aux alentours du 15e siècle. Paracels disait, c'est la dose qui fait le poison. Et je pense qu'il faut, on est tous convaincus autour de cette table, c'est d'abord le plaisir. Plaisir, bien-être, santé. Et c'est la dose qui fait le poison. Mais de pousser les gens à la super consommation, et c'est là où ça a déséquilibré au XXe, en disant non, non, vous pouvez tout avoir et pour pas cher. Et ça, et encore une fois, je pèse mes mots en disant ça.
Parce que boulot,
j'ai fait partie des gens qui souhaitaient ardemment acheter pas cher.
Et dans le plaisir, et on est tous logés à la même enseigne autour de cette table, il y a le sucre. Il y a évidemment, dès qu'on prend quelque chose de sucré, on sécrète peut-être quelque chose, on a un kiff, on se dit, ah là là, qu'est-ce que c'est bon.
C'est réconfortant.
Et pourtant, le sucre, c'est la pire des drogues inventées.
En vente libre.
Mais c'est vrai, mais faut aussi permettre le bien manger, bon, ça c'est du conseil scolaire, mais aussi de donner une accessibilité au sport aux plus modestes. Parce que la lutte contre la sédentarité, on ne pourra pas, c'est pas simplement dans l'alimentation. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je milite pour les clubs de foot à bas prix, vraiment là pour le coup, que ce soit une accessibilité pour les parents. Quand vous avez trois enfants, trois activités sportives différentes, il faut leur dire, non, non, ben, là, ce sera gratuit et vous allez venir, mais l'essentiel, c'est de faire du sport. Il y a aussi cette lutte contre la sédentarité.
Tout passe par l'éducation. On va parler de votre école aussi dans quelques instants. Et on va recevoir François Simon, écrivain, journaliste, critique gastronomique, pour parler à nouveau du bon.
C'est dans la revue, d'ailleurs.
Absolument. Mais la musique aussi dans la vie de Thierry Marx. Est-elle importante ou pas, cette musique? Vous écoutiez, par exemple, dans les années 80. Quelle est cette musique et pourquoi elle vous évoque particulièrement les années 80?
Oh bah, c'est le retour du Liban. Et j'ai découvert un jour la voix de Sœur Marie Kérouz. Et c'est drôle, il y a des moments comme ça de lumineux dans vos vies où vous dites tiens, ça correspond à un moment que j'ai vécu. Et c'est cette voix, espèce de mélange de chants maronites, melchites. Et de langue arabe. Et on connaissait tous Oum Kalsoum, moi je ne connaissais pas à l'époque. Et puis un jour j'entends cette voix de Sœur Marie Kérouz et immédiatement ça m'a plongé dans le quartier d'Achrafieh que j'avais connu dans les années 80 où le quartier d'Achrafieh était lourdement touché à l'époque, notamment en 81. Et voilà, et un jour j'entendais cette voix et j'avais l'impression que j'avais connu cette voix toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi.
C'est joli. On est dans les années 80-82, vous revenez du Liban, retour en France. Et vous faites pas mal de différents jobs en fait. Vous êtes vigile, transporteur de fonds, manutentionnaire. Vous assurez la sécurité de personnes aussi. Et un jour, la femme d'un de vos clients vous demande de faire un gâteau d'anniversaire.
Oui, on avait bavardé quelques minutes. Elle s'occupait d'une personnalité importante. Et moi, j'étais là juste pour préparer le lieu dans lequel...
Tout le monde veut savoir qui, mais il ne le dira pas.
Et non, je n'ai pas le droit de le dire. Et,
c'était qui?
Et ce qui est drôle, c'est qu'on a parlé gâteau. Et son fils avait... venait avoir 10 ou 12 ans.
Comment on en arrive à parler gâteau avec vous? Parce que si vous assurez la sécurité, a priori, moi, je ne parle pas de gâteau avec quelqu'un qui assure la sécurité.
Une tranche de cake.
Et
donc, elle me parle gâteau. Je fais un gâteau d'anniversaire.
Quel gâteau vous faites? Vous pouvez nous dire ça?
Ah ouais, non, j'avais fait un gâteau pas terrible, d'ailleurs. Je pense que j'avais fait ça avec les moyens du bord. Et je me rappelais de ce que j'avais appris dans mon apprentissage de pâtissier. J'ai livré le gâteau, ils m'ont gardé à dîner. On a parlé et ils m'ont permis d'avoir un emploi différent. Deux, ils m'ont aidé à reprendre mes études. Ils m'ont accompagné jusqu'au baccalauréat.
Vous les avez revus?
Et ils ont changé ma vie. Je les revois tout le temps.
Vous en payez l'école Le Nôtre?
Ils m'ont payé l'école de nôtre.
Ah ouais, non mais là, on est dit, c'est du parrainage, c'est du...
Ils m'ont donné un catalogue, et ils m'ont dit, ben voilà, prenez ce que vous voulez. Et j'ai tout pris. J'ai pris le catalogue, j'ai pris tous les stages qu'on pouvait faire à l'école de nôtre, ça m'a remis en route. Et surtout, ils m'ont inscrit, au lycée Hélène Boucher. Mmh. Oui. Et j'ai repassé le brevet des collèges d'abord, parce que j'avais pas le brevet des collèges.
C'est une vanne, c'est vraiment Boucher,
Hélène
c'était
Boucher,
le nom
oui.
Boucher, c'est le nom
très
à la
connu,
concours de
très
la Seine.
Très prestigieux, c'est Hélène Boucher.
Et puis, ils m'ont accompagné jusqu'au baccalauréat.
Oui, mais d'accord.
Et du coup, après, j'ai quitté la France, mais vraiment, ils ont compté dans ma vie, ils comptent dans ma vie.
Ouais. En 2005-2006, vous écoutiez Ayo. Y a que les voix de femmes qui vous troublent.
Non.
Et c'est la sortie 2005-2006 de votre ouvrage Planète Marx. C'est un peu mégalo ou pas Planète Marx ? Comme titre, vous avez hésité ?
Oui, j'étais mégalo, j'avais écrit une dizaine de textes. Et puis j'ai rencontré une photographe formidable qui était Mathilde Lécotet. Et ça a fusionné, ça a marché tout de suite. Et elle aimait déranger les cercles, moi aussi. Et elle m'a dit non, ça devrait s'appeler Planète Marx parce que t'as l'air un peu fumé, comme ça t'es tout seul sur une planète. J'étais un peu seul sur la planète.
Et vous avez vraiment, quand vous vous dites fusionner, on parle de cette cuisine du 21e siècle, d'un voyage en apesanteur, quelque chose, cette cuisine fusion, cette cuisine incroyable.
Bonne allusion avec Thomas Pesquet dans la revue.
Oui, c'est parce qu'on parlait de gastronomie moléculaire et beaucoup se risquaient de dire que ça allait être une tendance de cuisine. Or que très rapidement, avec David Edwards et Raphaël Aumont, on pensait que c'était plutôt un outil de compréhension pour pouvoir aller plus loin. Mais que ça pouvait pas devenir une tendance de cuisine. Mais ça nous a mis un petit peu en apesanteur pendant un moment.
Et vous étiez chef de l'année par Le Goût et Millau dans années 2005 aussi. François Simon, justement, on va parler de tout ça. Bonjour et merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Écrivain, journaliste, critique gastronomique. Vous êtes en train d'écrire ou de publier un roman.
Oui.
Il est publié ?
Oui, il est sorti au mois de septembre, c'est sur John Lennon et Yoko Ono quand ils étaient au Japon.
Le silence.
Personne n'en a parlé, ça s'appelle Le silence
de l'amour. Aux éditions Les Équateurs. Quelle est votre définition du bon ? Votre propre définition ?
Alors là, ce que j'aime bien, moi, dans un mot, c'est que c'est une porte ouverte. Et j'aime pas mettre des normes et des cloisons. Et j'aime bien lorsqu'on évoque le mot bon, tout le monde puisse se l'approprier, sans pour autant se faire chasser de son bon ou de son mauvais goût. On a tous un mauvais goût et souvent on le revendique. Et donc le bon goût, pour moi, n'existe pas en soi. Il est ce que j'appelle moi une sorte de macro-gastronomie, c'est que chacun, maintenant, a son petit univers constitué de repères. Alors qu'avant, on était dans l'adhésion sociale. Il y avait le bon et le mauvais goût. Et il y avait la cuisine bourgeoise, la cuisine populaire, et tout était rangé. On en faisait des guides. Aujourd'hui, tout a explosé ou implosé. Et moi, je trouve ça formidable parce que finalement, chacun est renvoyé à soi-même et on a sa propre notion du bon.
Oui, pourtant, vous dites le bon s'est fait la malle. Vous écrivez, il a été englouti par des gloutons.
Oui, c'est vrai, mais ça, c'est dans les restaurants. Hein, parce qu'en ce moment, le bon, effectivement, quand on y réfléchit bien, dans les restaurants, ce qu'on nous propose, c'est une expérience. Ou un voyage. C'est souvent des mots comme ça allusifs, et à la limite, on peut se manger une porte, c'est aussi une expérience.
Et voyage, urgence, c'est la fin du voyage.
C'est la fin du voyage. Un petit goût de bois, c'est pas dérangeant.
Qu'est-ce qui vous manque dans les restaurants, de revenir à des fondamentaux?
Ouais, je pense que, de toute façon, ils vont revenir, parce que c'est toujours cyclique, c'est comme dans la mode, il y a des époques très rigoureuses, et ensuite il y a des époques très fantaisistes. Il y a eu la nouvelle cuisine qui révolutionnait la cuisine classique, et ensuite, quand il y a eu trop de nouvelles cuisines, on a fait des cuisines très prussiennes, c'était l'époque Robuchon, Ducasse, où tout était riveté. Et puis après, on en a eu marre, on a fait du moléculaire, et ensuite, et sans arrêt, on change. Oui, et en ce moment, on est dans le voyage.
On est dans l'ouverture des cartes qui vous permettent d'avoir de la nourriture japonaise, mexicaine,
des
spécialités, voilà. Et ça, mais ça, c'est une décision des chefs, à votre avis, ou une demande des clients ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est mêlé. On est tous dans un monde qui fusionne. Donc, comment dire, la cuisine est totalement le reflet de ce que nous sommes. On a des sentiments très mêlés, très confus. On est dans une période un peu perdue. Donc, la cuisine est comme ça.
Et ben, on est d'accord que de manger local, de suivre les saisons, ça peut limiter aussi les possibilités pour certains restaurants et ne manger que des endives, des patates ou des potirons parce qu'on est en hiver, ça limitera aussi le champ des possibles.
Oui, mais ça, vous êtes dans un discours qui est bienveillant et qui est optimiste. Mais en fait, quand vous regardez les gens, quand vous regardez, on est capable d'alterner dans une semaine des pratiques les plus absurdes et même les plus nulles de la terre, bouffer de la bouffe dégueulasse, sans rien dire. Et le soir d'agonir un pauvre cuisinier qui aura loupé la cuisson de la pizza. Et le lendemain, de faire un dîner en famille adorable avec un pot-au-feu très responsable. Et le surlendemain, d'aller dans un vietnamien dégueulasse. Et où voulez-vous qu'on soit aujourd'hui? On est perdu. Donc la cuisine reproduit souvent de façon heureuse cette perdition. Mais la plupart du temps, c'est un peu... C'est quoi le mot? Il n'y a même pas de mot pour ça.
Est-ce que le critique gastronomique que vous êtes va dans le sens de Thierry Marx sur l'importance de l'éducation et de l'école?
Je pense que Thierry Marx a tout à fait raison. Plus on est instruit, mieux, plus on a de goût, plus on voyage, plus on comprend les autres, plus on comprend la différence, plus on est bienveillant. Et plus on reste chez soi, plus on reste renfermé, plus on reste identitaire, plus on a peur. Et ça fait des nourritures de peur. Je pense que c'est une sorte de bon sens qu'on a oublié. Les gens ont besoin de savoir, d'apprendre, et même aussi de tout oublier. Je pense aussi que c'est bien aussi, moi ce que j'aime bien dans la nourriture, c'est que l'on oublie à la fois son milieu, sa culture, on va à l'instinct, on va au marché, ou je sais pas quoi, même si on n'a rien du tout. Moi j'ai terminé un livre qui s'appelle « La poétique du jambon beurre ». Et je crois qu'en fait... Moi, je passe ma vie dans les restaurants, vraiment, je passe ma vie là-dedans. Mais je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus bon qu'un jambon beurre au soleil, tranquille, peinard? Pour moi, c'est ça le bon goût. C'est ça l'origine du goût, en quelque sorte.
Le jambon beurre, vous avez le pain avec le gluten, la baguette à 29 centimes chez Leclerc, le jambon rosé, coloré, on a appris ça aussi, parce que bah oui. Apparemment, si le jambon est gris, mais s'il est gris, il ne se vend pas, donc il faut qu'il soit rose, donc on rajoute des colorants, et puis là-dessus, vous rajoutez des matières grasses, c'est-à-dire du beurre. Vous
êtes et le cornichon.
Vous êtes sûr de votre choix?
Oui, ça s'appelle l'appropriation du risque.
François Simon, le silence de l'amour, aux éditions Les Équateurs, sur John Lennon et Yoko Ono. Leur histoire d'amour au Japon. Merci d'être venu à ce
Merci
micro
à
et voici venir Jérémy Crédville.
Oh oui. Ambiance. 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 Ambiance.
Petit cadeau. J'ai une pensée émue pour JB, le rédacteur en chef de l'émission, qui m'a dit « Tu peux faire du Francky Vincent, mais sans accent. » J'ai dit « Promis. » Donc voilà. Ouais. Petite chanson sur Octobre Rose. Il parle de Zizi. Je vais parler de ça, moi. Pas JB, hein, Francky.
Si y a grosseur, ça engourdit, que ta poitrine te travaille, les bras levés si elle est douloureuse, ou même les bras pas levés, y a pas de honte à avoir mal, faut pas te dire que c'est mental, pourquoi tu joues la femme fatale, c'est médical. Même si tu les trouves biscornues, même si tu as le téton velu, et même si leur vue t'insupporte, n'attends pas que le cancer t'emporte. Ma chérie va te faire dépister. Des solettos, ça peut te sauver. Qu'est-ce que ça coûte de vérifier? Faut palper. Chérie, si tu fais ta palpation, je trouverai ça fabuleux. Vois pas ça comme un châtiment. C'est pas normal ce grossissement. Si t'as du liquide qui s'est libéré, si t'as les veines faciles à observer, que tu remarques une asymétrie, n'attends pas, vas-y, vérifie si c'est bon. Si t'as des croûtes ou des lésions, va faire une palpation. Si t'as des sillons au mamelon, vérifie si c'est bon. Sois pas timide, ce serait trop con. Vérifie si c'est bon. Allez, va faire ta palpation.
Ouais, parce que le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes. C'est aussi le moins répandu chez les hommes. Elles ont pas de bol, décidément.
Mais il y a des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein.
Ça touche quand même une femme sur 8. Ça touche aussi les non-genrés, les non-binaires, les gender fluides, enfin toutes les personnes qui ont des seins, ou pas, mais qui sont censées en avoir, comme Fanny Ruvet, par exemple, qu'on embrasse. Que tu aies des petits seins, ou qu'ils fassent trois fois la taille de tes mains, si la couleur de ton aréole change, que tu ressens une boule étrange, une légère déformation, si le kiwi devient melon, ça mérite vérification. Il est temps de faire ta palpation. Vérifie si c'est bon. Une fois par an, check tes nichons, va faire une palpation. Même si tu crois qu'il n'y a pas de raison, vérifie si c'est bon. Tes pêches, tes poires ou tes citrons, vérifie si c'est bon. Allez, va faire une palpation. Alors, je dis palpation, mais il y a aussi mammographie pour vérifier si tout va bien. La mammographie, c'est super. On t'écrase le sein entre deux plaques hyper froides et on te demande de ne pas bouger. Ouais. Voilà, pareil que ce sera une épreuve dans la saison 2 de Squid Game. Alors, oui, des fois, on a peur, des fois, on est timide, des fois, on est pudique. Alors, pardon, mesdames, mais mourir de pudeur, c'est quand même complètement con. Du coup, fais ta palpation. J'aime quand tu touches. C'est de la prévention. Ah, c'est super. Fais ta palpation tous les ans, c'est génial. Fais ta palpation octobre rose tous les jours. Fais ta palpation, décidément, c'est dément. Fais ta palpation, oh, quelle aventure. Fais ta palpation, ça va te soulager. Diffuse l'information. Et bonne émission.
Bravo. Oui. De quoi tu parles aujourd'hui, Jean-Guy?
Je vais vous parler des épinards, mais pas n'importe lesquels, les épinards connectés. Oui, c'est une nouveauté.
C'est la bande originale jusqu'à midi et demi avec Leïla Kadjoudali, Daniel Morin et le meilleur des émissions. Et quand on dit meilleur avec le bon goût, ça va bien. Thierry Marx, le chef Marx, avec son magazine Boom.
Quant à bon goût, tu viens pas là, désolé.
Le meilleur de la bande originale jusqu'à midi et demi avec le chef, Thierry Marx. Vous publiez donc cette revue Bon autour de ce qui est nécessaire en termes d'éducation, de consommation, d'information aussi, de savoir ce que l'on mange. Vous, d'ailleurs, il y a aussi, on a évoqué tout à l'heure les choix un peu bobos autour de la nourriture. Sur notamment le véganisme ou être végétarien, mais c'est vrai que quand vous parlez de souffrance animale, vous dites je ne vois pas d'inconvénient, et je vous rejoins là-dessus, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des animaux qui
souffrent.
Non, des cochons tués, des veaux tués ou des bœufs, mais autant le faire proprement, parce que c'est quand même bon à manger et à consommer, et vous culpabilisez même à un moment donné quand vous manipulez, enfin vous ne voulez pas peut-être que la bouchère culpabilise en manipulant le veau qu'elle va mettre sur son étal. Le problème là, c'est que dès l'instant où nos politiques refusent les caméras dans les abattoirs, on refuse ces contrôles et on ne sait pas ce qui se passe, même si on a une étiquette correctement élevée ou l'étiquette élevée en France où tout va bien. Qu'est-ce qu'on en sait ?
Oui, c'est très juste. D'ailleurs, ça a beaucoup saisi l'opinion publique. Et je trouve qu'il y a un basculement dans la viande. On voit les abattoirs qui vont de toute façon réduire. La consommation de la viande est en train de baisser. C'est plus un produit du quotidien.
Clairement,
oui. Mais vous savez, le deuxième salaire de la grande distribution, en général, ou le troisième salaire, c'était le boucher. Et on voit bien que ça commence à poser un problème. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit se réouvrir des petites enseignes. Et ça veut dire que la consommation de la viande ne devient plus un produit du quotidien. Donc moi, ce que je défends pas, c'est de tirer à boulet rouge sur des gens qui mangent de la protéine animale. C'est pas mon sujet, c'est de dire mangeons mieux, mangeons moins, et peut-être qu'une viande une fois par semaine...
Réduisons.
C'est le flexitarisme qui m'intéresse, qui me permet de mieux rémunérer l'éleveur. En échange de quoi il nous propose. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux dans le prix du porc, par exemple, c'est qu'il atteint même pas le niveau du prix de la viande pour animaux. C'est ça qui est scandaleux. Donc il n'est même pas rémunérateur pour le voir, il fait perdre de l'argent à
Ce qui est scandaleux, c'est aussi tout ce qu'on lui met dans le ventre pour pouvoir devenir qui il devient.
Et puis, surtout quand on défend aussi tout ce qu'on lui met dans le ventre qui n'est pas forcément bon, les sols sur lesquels il est, et puis finalement de se dire non, ça c'est pour que ce soit pas cher. Mais c'est très cher finalement, parce que vous le payez trois fois. Une fois à la caisse, une fois pour vous soigner, et une fois avec vos impôts pour nettoyer les intrants chimiques qu'il y a dans les sols. Ce qui est étonnant, on voit et j'observe ce qui se passe dans la grande distribution. Aujourd'hui, le rayon boucherie est en train de diminuer. Et on voit se redimensionner les petites boucheries extérieures de ces magasins, à l'extérieur de ces magasins. Et on s'aperçoit, encore une fois, que le prix de la viande, c'est quand il est mal présenté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter que de l'arrière du bœuf, vous pouvez acheter l'avant. Quand vous avez un boucher qui sait vous conseiller, finalement, il pourra conseiller pour toutes les bourses. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il n'y avait pas forcément en grande distribution, où on allongeait dans de grands linéaires énormément de viande.
Sans aucune explication.
Sans aucune explication.
Le rapport, d'où l'intérêt du retour à l'artisanat et au rapport humain et à la prescription et au conseil donné.
Et c'est ce qui est en train de se produire. Ouais. C'est intéressant parce que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes qui consomment et des fois qui ont peu de moyens sont devenues assez agile, émission de cuisine, on se renseigne beaucoup plus. Est-ce que je suis un parent maltraitant si je donne pas de la viande tous les jours à mes enfants? Bien sûr que non. Et tous les nutritionnistes écrivent là-dessus depuis 20 ans. Donc oui, il y a des choses comme ça où il y a une prise de conscience et on se dit non, je vais plus me faire pigeonner.
Thierry Marx, jusqu'à midi et demi, est avec nous et tant qu'il passe sur eau est déjà là.
Alors vous le savez sans doute si vous m'adulez, je suis végétarien. Alors attention, pas militant, hein. Je peux être entouré de mangeurs de viande, je ne juge pas, on a tous nos déviances, on n'est pas tous obligés d'être de belles personnes. Moi-même parfois je suis à deux doigts de craquer à la supérette quand je passe devant le stand de Justin Bridoux et que je vois le visage placide de Justin, ce béret, cette moustache, cet air de dire « Ah, pour le premier tour, je me tâte entre Le Pen et Zemmour ». Je ne sais pas pourquoi, mais tous les types à moustache, je les fais plus ou moins comme Jean Castex. Tenez, Yann Arthus Bertrand, eh ben la planète ne le va pas bien. Hein, Charles Brandt, toi, et lui dit, je vais te péter la gueule. Arthur, le chanteur de Feu Chatterton, en fait, c'était peut-être pas une super idée cette moustache parce que les groupies, elles se tapent le bassiste. Saddam Hussein en 90. Tiens, je vais envahir le Koweït. Il y a des réserves de pétrole infinies là-bas. Je pense que les pays occidentaux vont me laisser faire. Daniel Morin, foutre Dieu, il va arrêter avec ce gag sur les moustaches, c'est con parce que ça devient un peu long. Bon, vous avez compris l'idée. Je suis végétarien, okay. Pas vegan. Hein, je vois une poule, je suis capable de lui dire, toi, c'est bon, mais je prends les œufs de tes futurs enfants. En fait, pour les poules, je suis un nazi. Hein, si un jour les poules prennent le pouvoir, je serai jugé au tribunal de Loué dans la Sarthe pour crime contre la poulité. Tout ça pour vous dire que je me rabasse sur les légumes. J'en connais 300 différents, plus qu'un lapin ou Émeric Caron. Alors pour les distinguer, Émeric Caron, c'est celui qui ne fait pas un caca dehors. Ou alors il faut qu'il soit vraiment bourré. Hein. Donc sur le net, tandis que vous lisez des articles sur le nouveau mec de Kim Kardashian, ce pauvre type à qui on répond chez Etam quand il veut faire un cadeau à sa femme, ah ben on n'a pas cette taille là. Oui, je suis parti du postulat qu'on est tombé sur une vendeuse à moustache. Hein. On n'a pas cette taille. Allez voir les tantes à Décathlon. Ok. Bon, pendant que vous lisez les potins people, moi je lis des trucs sur les légumes. Voilà, j'ai toujours eu une passion pour les légumes. Petit déjà, ma blague préférée était une blague de légumes. Vous voulez que je vous la fasse?
Oui.
Ouais. Ok, vous savez ce que c'est une tomate avec une cape? Super tomate. Voilà. Bon, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le secteur de l'humour était vierge. Il y avait ni les Baudins, ni Patrick Bosso. Marlène Schiappa n'était pas née. Et vous savez ce que c'est un concombre avec une cape? C'est un concombre qui essaye d'imiter Super Tomate. Voilà. Donc là, l'auditeur de France Inter est effondré. Il a déjà dû appeler le magazine Causeur pour dire à Elisabeth Lévy, je rejoins votre combat, madame. J'ai réservé un tractopelle chez Kiloutou. Venez, on attaque la maison de la radio. Dans l'exemple, l'auditeur de France Inter n'a pas de moustache. Ça s'entend à son manque d'accent. Donc, il faut qu'on rajoute du fond. Eh ben, tenez, je vais vous parler des épinards. Vous voyez les épinards, vas-y. On les fait à la crème, c'est ce qui les différencie des tournevis. Et ben je suis tombé sur un article du site d'Euronews intitulé « Des scientifiques ont appris à des épinards à envoyer des emails ». Alors, premier réflexe, j'ai vérifié que l'article n'avait pas été posté dimanche à 3h07 du matin, parce qu'on aurait pu penser que les journalistes étaient sous l'emprise de la drogue. Leur lot quotidien. Un Rutel Krief, il faut l'avoir dans les clubs, uriner dans les mojitos des gens, en hurler « J'adore l'acide house » alors que la boîte passe les démons de minuit. Mais en fait, non, c'est une vraie info, des ingénieurs aux États-Unis ont réussi à greffer des capteurs à des plants d'épinards capables de repérer des matériaux explosifs. Exemple, Alexis le Rossignol se fait retourner par Daesh. Le chef, Abou Bibou Al-Babakar, où es-tu ? Lui dit, t'inquiète, si tu nous rejoins, on te fera une dérogation, tu pourras quand même manger des rouleaux de jambon. Argument imparable, le Rossignol devient islamiste et se met à poser des mines dans le désert syrien. Eh bien, il n'a pas remarqué, ce con, que les plants d'épinards juste à côté, lesquels plants qui sont en wifi, préviennent l'armée qu'un explosif est proche. C'est-à-dire que dans peu de temps, nos légumes vont nous surveiller. Moi, quelqu'un qui me parle chez Leclerc devant les courgettes, je lui dis « Tais-toi, on nous écoute, on discutera devant les biscottes. » Ah oui, parce qu'ils sont pas prêts d'augmenter les capacités des biscottes. On part quand même d'un aliment qui, quand on le fait tomber, atterrit toujours du côté confiture. Là, moi, j'ai réglé le problème, je mets plus de confiture dessus. Bon, ça fait des petits déj pas très fun, mais au moins, on n'a pas à passer la serpillière. Et en fait, la nanobionique végétale, c'est le fait d'augmenter la capacité des légumes est en plein essor. Les ingénieurs, par exemple, expliquent que les légumes peuvent savoir avant nous s'il y aura une sécheresse. C'est-à-dire que si un bateau coule, que dessus, il y a Evelyne Delia et un navet qui reste une seule place dans le canot de sauvetage, vous pouvez dire à Evelyne Delia, madame, avec tout le respect que je vous dois pour le sauvetage, on va plutôt partir sur Henri. On aura donné un prénom au navet, hein, histoire de ne pas humilier Evelyne Delia. La femme de Daniel fait pareil avec cette aubergine, Jean-Claude. Eh bien, comment les légumes prévoient-ils la sécheresse? En fait, ils puisent des infos dans le sol. Et s'ils avaient les mêmes capteurs que les épinards, ils pourraient eux aussi envoyer un mail. Parce que les épinards à capteurs, hein, ça je vous l'avais pas dit, pour prévenir qu'Alexis de Rossignol a posé une bombe. Eh bien, ils envoient un email. Alors j'espère après qu'ils tombent pas dans les spams. Hein, si ça se trouve, la technologie est prête depuis 25 ans. Et un jour, un mec au FBI, il va ouvrir ses spams et il s'écrie, zut, c'est trop bête, le 10 septembre 2001, une tranche de tomate dans un sandwich crudité prête à manger de l'aéroport de Boston nous a prévenu que des types suspects embarqués dans des avions. Enfin, flûte. Bref, comme dirait José Bové, eh bien, à l'avenir, passe par les légumes.
Merci, Tanguy Bassurou. Vous êtes bien dans la bande originale, voici Vertigo de Juliette Armanet et Sébastien.
Je vais faire les ongles, moi c'est utile.
Tu vas faire quoi?
Les ongles. En bleu.
Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois. Que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien je tiens pas bien sûr. Mes touches.
Vertigo de Juliette Armanet et Sébastien dans la bande originale de Thierry Marx sur Inter. Thierry Marx, on va parler de vos restaurants et de vos écoles, mais d'abord, Leïla, qu'avez-vous oui. d'avis à la culture ?
CNN vient de mettre à l'honneur la ville de Marseille. Oula. Mais de quelle manière, et ça a un lien bien entendu avec l'activité de notre invité Thierry Marx.
Le rap ?
Non.
Thierry Marx. À moins qu'on ne sache pas tout. À moins qu'il y ait un album sur le feu. Absolument. Ouais. La bouillabaisse vient de rentrer dans le top 20 des soupes mondiales. Elle est en quatrième position. C'est le classement de CNN. On y retrouve aussi le banga nigérian, qui est une soupe de poisson chat frais avec du bœuf et des fruits de mer séchés. Je regarde si je ne dis pas de bêtises, Thierry. Il y a aussi le pho de bœuf vietnamien ou alors le borsch ukrainien. Quelle petite soupe vous fait vous voyager ? Est-ce qu'il y a un plat étranger comme ça que vous aimez bien ? Je sais que vous aimez beaucoup le Japon, vous en parlez beaucoup, mais est-ce qu'il y a un plat en particulier que vous aimez bien cuisiner, qui vient d'ailleurs, que vous mettez pas forcément à la carte de vos restos d'ailleurs ?
Oui, c'est le dashi, le bouillon japonais. J'aime ça parce que je peux en consommer très rapidement.
Et c'est quoi le dashi ?
Le dashi, c'est assez technique, mais vous avez de l'eau minérale plutôt, une algue marine qu'on appelle du kombu, parce que c'est une algue linéaire. On monte à 90 degrés, on laisse refroidir et on ajoute ce qu'on appelle du katsuobushi, c'est du ventre de poisson séché, en général de la bonite, et on fait infuser. Et puis on filtre et on met juste une petite goutte d'une très très bonne sauce soja, non pasteurisée. Et ça vous amène très vite à satiété, ce bouillon.
Ce qui est génial, c'est que là, vous rejoignez aussi l'une de vos théories, zéro déchet. Il faut arrêter de penser que quand on prend un poisson, il n'y a qu'une partie à manger. Vous vous dites, je me sers de tout.
Oui, c'est fou qu'on ait des cours maintenant pour apprendre à ne pas gâcher. Mmh. Or que la base de mon métier, à partir du 19e siècle, c'était de donner de la valeur ajoutée à des produits simples. Donc rien ne se perdait.
Mais la bouillabaisse,
c'est ça. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai sous la main ?
C'est tout ce qui reste, c'est les invendus.
Je fais bouillir et quand ça bouge, je baisse.
À petit feu, voilà, bouille, abaisse.
Et quand ça bouge, je baisse.
Pour venir plus souvent, on apprend plein de trucs.
Ce qui m'a valu un jour une émission extraordinaire où j'avais un monsieur qui était de Marseille, et on lui dit, on avait fait une bouillabaisse un petit peu revisitée, donc on s'est fait torpiller. Et il dit, mais c'est facile pour vous, la bouillabaisse est née à Marseille. Ah, il disait, non, monsieur, la bouillabaisse, c'est un martigue. je mesure pas le nombre de kilomètres entre Marseille et martigue.
Ouais, mais bon, c'est pas pareil.
Non, monsieur, la bouillabaisse, c'est un martigue.
Autre question. Ouais, on reste aux États-Unis avec une belle histoire. C'est l'adaptation d'une comédie musicale française qui va être montée à Broadway.
Voilà, là.
Pour Dan ?
Non.
Une comédie musicale Starmania ?
Qui a dit
Les Misérables.
Les 10 commandements.
Bravo, tandis les 10 commandements, ah, absolument.
Je parle de la musique que j'aime.
Cadeau, Morgane. Plus de 20 ans après sa création, Les 10 commandements sera sur scène en mai à New York. C'est un gros, gros projet, vous vous en doutez, parce que je pense qu'ils attendent éventuellement le même succès qu'en France. Est-ce que vous avez des projets à l'étranger de chant, peut-être ? Des projets en tant que grand chef français, on sait que la cuisine française s'exporte bien, que c'est toujours vendeur. Est-ce que ça l'est toujours autant dans cette ère Covid, puisque vous l'avez dit, ça a changé quand même un peu de choses.
Oui, non, on est toujours bien accueillis. Moi, j'ai développé pas mal de choses au Japon, mais je commence à redévelopper pas mal de choses aux États-Unis. Mmh. Donc, on a plus un bon accueil, en sachant que depuis une vingtaine d'années, on est très challengé par d'autres cuisines, qu'elles soient sud-américaines, espagnoles, italiennes. Et donc, il faut un peu jouer des coudes. Mais on est encore capable de montrer que dans la gastronomie française, il y a une économie de la qualité, il y a un savoir-faire qui trouve encore sa place quand on sait le réinventer sur l'ensemble de la planète.
Je n'ai pas cité vos trois restaurants, Thierry Marx. Il y a le Sur-Mesure, le Camélia, le Cake Shop. Les trois sont situés à l'hôtel Mandarin Oriental à Paris. Vous avez également ouvert des boulangeries. Peut-être pour ça aussi que vous réagissez sur la manière dont on traite le pain. Le pain étant pour vous produit essentiel à partager et à nourrir. D'ailleurs, comment vous réagissez sur ceux qui sont anti-gluten, anti-pain, qui disent que le pain fait grossir, le pain fait péter, le pain...
On a oublié de citer la brasserie de la Tour Eiffel au premier étage. Mais non, le pain, oui, c'est agaçant, mais il y a tout type de pain. C'est-à-dire que après, on peut cibler si on a une pathologie vraiment, on peut ne pas manger de gluten. Mais quand vous prenez un pain de seigle, par exemple, moi j'aime le seigle des Combrailles, vous savez, c'est l'Auvergne. Vous avez un pain qui est totalement sans gluten. Mmh. Donc je ne vois pas pourquoi on irait s'interdire des gluten si on n'en a pas vraiment cette pathologie. Et puis il y a une telle diversité dans le pain.
Le pain blanc, en tout cas, n'est pas réputé pour être très très bon pour la santé. La baguette à un certain nombre de morceaux de sucre, par exemple.
Le pain blanc en pousse directe, c'est-à-dire quand on fait des pains sur levain, on a une digestion qui est bien meilleure, avec des farines, encore une fois, qui sont qualitatives. Ouais. Tout est possible. Il y a une telle diversité dans le savoir-faire français en termes de boulangerie que tout le monde peut y trouver son compte, et je l'accorde, c'est que la baguette toute blanche, faite très rapidement comme ça, bah c'est du sucre, hein, ça va se transformer en sucre, et c'est pas très bon.
Et c'est pas très bon.
Mais une très bonne boule de meule, un très bon seigle, c'est très bien.
Revenons à vos écoles, 4 écoles de réinsertion à Besançon, Villeneuve-Loubet, Marseille, Grigny, y en a d'autres qui vont s'ouvrir aussi ?
Oui, on a 9 écoles, on a une école dédiée au sport, qui s'appelle Passeport pour l'emploi, et on travaille là aussi sur l'approche sportive et l'approche nutritionnelle, bien sûr, pour ramener des personnes dans un projet scolaire ou un projet métier. Et puis, on a Media Social Food, qui est une agence de communication qui fonctionne avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, c'est 9 écoles et 2 à l'international, une en Colombie, à Bogota, et une à Détroit, bientôt.
Et l'idée, c'est de s'ouvrir, de ne laisser personne hors jeu, pour employer un terme sportif, de l'éducation.
Oui, je pense que il y a beaucoup de gens qui, depuis des années, sortent des écrans radars. C'est dommageable, et de leur donner envie de retrouver un projet. Je parle pas de métier, hein. Ouais. Juste l'idée d'un projet en 12 semaines. Moi, ça me paraissait essentiel, et j'ai découvert ça il y a très très longtemps. J'étais avec Véronique Colucci au Resto du Cœur, et il y avait une réponse, hein, vraiment à l'urgence alimentaire dans ces Restos du Cœur, et comme dans beaucoup d'ONG. Et puis à un moment donné, à force de travailler avec des personnes qui étaient en grande précarité, bien souvent, je sentais qu'on pouvait proposer une formation professionnelle pour retrouver un projet d'épanouissement au travers d'un métier. Pour moi, c'est facile. La cuisine, la boulangerie, les métiers du sport, c'est des univers, des cadres éducationnels qui m'ont beaucoup aidé. Donc on a mis ça à disposition. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître que c'est 95% de retour à l'emploi. C'est
formidable.
Ça qui nous...
Bravo. Ah, ils sont vraiment fascinent. Formidables. Moi, ma petite sœur a fait votre école, et vraiment, bravo et merci, c'est vraiment formidable.
Et je trouvais qu'il y a des personnes qui arrivent en se disant je veux faire ça, bah, c'est maintenant.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bah déjà, désolé pour ceux là qui en ce moment étaient en train d'écouter l'émission, en train de manger une tartine, qui ont entendu Nagui parler de menaces gastriques et qui sont partis en courant en toilette. Non, ça va, c'est juste Nagui qui perd la boule. Désolé pour Thierry Marx, apôtre du bien manger, du responsable et du bon. Et comme c'est l'heure du déj, moi, Thierry, je vous invite avec grand plaisir à la cantoche de Radio France. Voilà. Ouais, c'est pour moi. Alors, vous n'aurez pas une impression d'immersion dans le guide Michelin? On est plus dans une ambiance, on achève bien les chevaux. Mais après 15 Ricard, vous savez, ça passe. Désolé pour nos fidèles auditeurs, fans du blind test, qui ont été scandalisés par le débat autour de la non-présence dans la sélection de Nagui. Francky, c'est indispensable. Alors c'est vrai, ça fait du bien aux oreilles. Il n'y a pas qu'aux oreilles, ça fait du bien partout. Rien de tel, les amis, que Francky Vincent pour commencer le week-end.
Merci Thierry Marx, merci mille fois, et bravo pour tout ce que vous faites dans les assiettes comme autour et comme en dehors de vos cuisines. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Leïla Kadourounadi, merci Daniel Morin. Merci. Heureusement, nous revenons demain, même adresse, même heure, avec le roi du suspense, Joël Dicker.
Moi Dickers, j'aime bien l'homme, mais l'écrivain m'ennuie.
Bon, n'importe quoi. Passez une très bonne journée sur Inter, enfin, et à demain.